RMC Running.
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Avec Yoann Durand, mon montagnard à moi, maître Yodu. Salut Yodu.
Salut l'homme de la ville, ça va?
Eh oui, toi t'es sous la neige à Font-Romeu et nous on est à Paris sous la grisaille.
Oh bah, j'échange ma place, tiens, une fois.
Ça c'est
je
rare.
Je veux bien te bloquer sur le périph' s'il fait plus de 10 degrés.
Ah ouais? Bah viens sur la 13, tu verras, tu changeras vite d'avis.
Bon, Yoann,
On remercie d'ailleurs tous ceux qui nous soutiennent sur les différents réseaux sociaux. On rappelle l'opération record du monde, il y a encore quelques places à prendre. N'hésitez pas, il faut valider votre performance sur le club RMC Running sur Strava. L'événement va être fantastique. On va annoncer au fur et à mesure les champions qui vont participer. Vous allez voir, ça va être magique. Donc un grand moment qui vous attend le week-end du 8-9 juin à Charletti. Aujourd'hui, c'est le troisième épisode hors série consacré à l'UTMB. On est à 17 semaines de l'événement et on accompagne la préparation de trailers pro ou amateurs. Je rappelle la bande, les noms qui la composent. Baptiste Chassagne, Marine Nakache, Nico Van Den Elsken, Julie Arnie. Et nos deux présents aujourd'hui qu'on va accueillir dans un instant, Mao Bécard-Granier et Stan Gruau seront avec nous. Où en sont-ils? Est-ce qu'ils ont commencé le travail de dénivelé? D'ailleurs, ce sera la séance qui est préparée par toi aujourd'hui, maître Yodu. Hein. Le travail en côte spécifique au trail. Hein.
Spécifique trail.
Bon, t'as bossé?
Important.
T'es pas sur tes zones de confort, toi. Hein.
Là, c'est pas ce que je maîtrise le plus, mais j'ai bossé.
Et puis, vous le savez, on va profiter de ce fil rouge autour de l'UTMB pour vous faire découvrir ceux qui font l'UTMB. Et là, c'est vraiment le cas avec l'invité du jour. Invité très spécial, la voix du trail en France, Ludovic Collet, le speaker officiel de l'UTMB depuis presque 20 ans, sera avec nous. Alors, enfilez vos baskets, attachez vos lacets, les cuisses vont chauffer aujourd'hui.
J'aimerais vous narrer l'extraordinaire destin d'une course à pied.
Vingt ans d'histoire, 20 ans de bonheur. Oui, 20 ans. Souvenez-vous, les moments sont éphémères. Les souvenirs sont éternels.
Je crois pas qu'il faut être fou, il faut surtout être passionné. En fait, ça me fait plaisir, finalement, avec un certain niveau d'entraînement, on est capable de courir 20-25 heures sans trop souffrir.
Vous avez rendez-vous avec la vie. Alors remplissez-vous d'images, d'authenticité.
Du Mont Blanc qui lors de sa création avait peine à rassembler 700 dingos fans de l'effort absolu et des 170 km à parcourir à pied autour du massif du Mont Blanc.
J'adore le titre, c'est Conquest of Paradise et je crois que tous les gens qui sont ici, ben, ils vont conquérir l'extraordinaire qui est en eux et ils ont un vrai challenge de cette manière-là.
Ah, ça donne des frissons systématiquement et on est ravis d'accueillir les trailers qui accompagnent tout au long de cette aventure. Mao Bécard-Granier à mes côtés, salut Mao.
Salut Benoît, salut tout le monde.
Mao qui, je le rappelle, est journaliste RMC qui va découvrir le grand UTMB cette année. Voilà, donc une première pour
ça
toi.
Ça donne des frissons là.
J'imagine. Et puis on a Stan Gruau, notre ami aussi, qui lui va parcourir l'UTMB pour la deuxième fois de sa carrière de
sportif.
Salut à tous. Salut Stan, ça va?
Ça gaz, à fond.
Bon, magnifique. On a hâte de faire le point sur vos préparations, de vous donner des conseils d'entraînement. Mais accueillons comme il se doit la voix du trail en France, Ludovic Collet en direct avec nous. Salut Ludo.
Salut. Ah, vous m'avez mis les frissons.
Ah, toi aussi.
Incroyable, je me suis fait prendre au jeu, dis donc.
Ah bah, tu vois, voilà, bah, c'est bien
à fait
pour toi.
Propre jeu.
Bah, c'est bien
à
fait
mon
toi.
Propre jeu, ouais. Ouais, ouais. Incroyable. Ouais,
il va finir par le courir. Bah, il va plus le commencer.
Et pourquoi pas
parce non. J'ai pas besoin, moi, de me flageller comme ça.
Ouais, c'est ça. Moi, je pensais que Vangelis, c'était ta sonnerie de portable, Ludo, mais non, alors, apparemment.
Non, je peux pas. Tu sais, je l'ai tellement entendu.
Ouais, j'imagine.
Tu sais, les premières années de Vangelis, on passait la musique en boucle pour tous les finishers.
Ah oui, ça fait long.
Des heures et des heures et quelques morceaux. Ah ouais. C'était saturation. Maintenant, c'est vrai qu'on le passe plutôt pour premier homme, première dame, et puis à quelques moments de la course. Mais c'est un morceau qui est fort.
Ouais, c'est sûr. Mais c'est très bien choisi et ça marque l'identité en tout cas de l'UTMB qui est devenu, c'est l'info à signaler, le Oka UTMB, désormais UTMB Mont Blanc. Donc voilà, ça a changé de partenaire principal. Donc c'est la marque Oka qu'on aime beaucoup, qui est désormais partenaire principal de l'UTMB. Comment vont nos champions? C'est la première question qu'on se pose. Mao, comment ça va? Johan, ça va te plaire? Elle sort d'un week-end choc. Est-ce que tu peux nous raconter ça?
Ouais, je suis. Disons qu'un week-end choc, c'est à la fois un beau moment en montagne et en plus, c'est un peu rassurant dans une prépa. Du coup, j'ai fait trois jours de prépa vers Chambéry, Albertville. Une première séance mise en jambe, 25K, 1006 de dénivelé pour juste créer un peu de fatigue. Ouais. Le lendemain, la sortie longue, là plutôt vraiment à une allure ultra, donc allure UTMB, c'est-à-dire un effort long sur 40 bornes et presque 3000.
Et le dernier. Comment tu fixes une allure UTMB?
Une allure UTMB, pour moi, ça signifie en gros tenter de garder un rythme dynamique en montée, mais en ne courant pas dès que la côte est trop raide.
Okay.
Et par contre, en essayant de courir à une foulée plus lente qu'évidemment sur de la route, mais dès que c'est plat et en descente, là, d'essayer quand même de courir.
Okay.
Mais voilà, par exemple, sur un chemin de randonnée plat, sur un rythme UTMB, on va plus être à 6 du kilo qu'à 4 comme sur...
Comme sur marathon.
Voilà, on n'est pas comme sur son allure marathon. Quoi. Ouais, voilà. Moi, disons que je suis à 4,20 sur un marathon, là, je vais essayer d'être à 6,30, je suis très contente.
Ok. Et donc, le troisième jour?
Et le troisième jour, un KV, donc, c'est-à-dire un 1000 mètres de dénivelé vertical, là, pour le coup, avec du rythme. J'étais en compagnie d'une autre fille traileuse bien meilleure que moi, et donc là, l'idée de mettre du rythme, c'était de faire 200 mètres de dénivelé positif en courant, 100 mètres de dénivelé en marchant, 200, du fractionné en montée.
Ces gens sont fous, Johan. Hein.
C'est trois jours d'amusement, c'est trois jours de balade.
Non, mais c'est bien. En tout cas, c'est important. On l'avait souligné dès le début de ce suivi de podcast, de suivi de préparation. On l'avait dit, les week-end shocks, c'est un élément clé de la préparation pour l'UTMB, Johan.
Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. On en a parlé, mais c'est vrai que surtout pour les gens qui habitent pas à la montagne et qui ont pas forcément le temps, c'est vrai que tu peux condenser comme ça tes entraînements, aller chercher le dénivelé qu'il te manque, les choses comme ça, le temps de 48 heures et habituer ton corps justement à être poussé un peu dans ces retranchements pendant 2-3 jours. Quoi. Donc, c'est parfait pour stimuler, un peu simuler les conditions de course.
Ouais, c'est un bloc d'effort extrêmement qualitatif et aussi très rassurant. Moi, je fais donc le UTMB Snowdonia 100K dans 10 jours.
Au Pays de Galles.
Voilà,
prochaine, alors.
Voilà, c'est ça, pas le week-end qui arrive, celui d'après. Et donc, c'est sûr que c'est rassurant. Et effectivement, comme tu le disais, Johan, quand on vit en ville, faire 3 jours avec 6000 de D+,
c'est compliqué.
C'est rare que j'y arrive à Paris.
Stan, où est-ce que tu en es, toi? Est-ce que tu as démarré la prépa spécifique? Tu étais à fond sur la route depuis le début de l'année? Est-ce que tu es un peu basculé côté trail désormais?
Oui, maintenant, j'ai ma dernière semaine, trail route, là, cette semaine, parce que j'ai le semi de Genève dimanche matin prochain.
Ok.
Où là, je vais essayer de quand même bien faire tourner les jambes. Alors, je ne sais pas trop, je pense que j'aurais du mal à faire le RP de l'année dernière parce que j'avais fait une 19. Parce que j'ai fait un peu moins de volume d'entraînement ce début d'année et justement plus d'entraînement mixte déjà. J'ai commencé le trail un peu plus tôt, je fais une, parfois deux sorties de trail par semaine. Moi je suis à Annecy là, donc c'est plus facile. Je vais sur le Semnoz et je fais mes 500, 600, 700 mètres de dénivelé.
Quel
sur l'heure du déjeuner.
Le ça, cadre c'est pratique, de vie
quoi.
Là.
La chance.
Donc ouais, ça c'est cool. Donc je suis encore en vitesse. Moi la semaine dernière j'ai fait... deux sorties de 24 bornes avec des fractionnés à allure semi à l'intérieur, du fractionné long, donc je suis plutôt sur l'endurance longue.
Okay.
Et ouais, 4 à 5 sorties semaine, donc un volume quand même intéressant. Et ouais, à partir de la semaine prochaine, trail à fond, et puis pas mal de renfos, je commence, j'avais fait ça beaucoup beaucoup trop tard l'année dernière, et donc là, surtout les releveurs, moi je me souviens, si j'ai un souvenir de l'UTMB, c'est j'avais les releveurs au-dessus des genoux et là aux chevilles en feu, quoi, parce que je les avais vraiment pas assez travaillés, donc je commence à faire un peu de renfos spécifiques, et nouveauté par rapport à l'année dernière, je commence à réfléchir au grand sujet de l'alimentation, parce que je suis vraiment naze.
Ah oui,
je suis vraiment naze sur le sujet.
Aller,
donc
c'est
voilà.
Important, ouais.
Je commence à me dire que mes œufs et mes lardons trois fois par jour, il va peut-être falloir réfléchir à être un peu plus diversifié.
Et puis le lardon, le problème, quand c'est pas cuit dans la poche du camelback, c'est pas pratique.
Exactement. Donc voilà, je commence à me renseigner. J'ai trouvé une fille sur Insta Nouchka, qui est assez cool sur la nutrition et qui va m'aider. On va faire des calls, elle a des petits cours, des trucs à me passer. Donc, je vais essayer de m'améliorer là-dessus. Donc, je suis en train de constituer ma team un peu en ce moment.
Magnifique, tu as bien raison. Et moi, je suis ravi de vous avoir tous les deux parce que vous êtes deux profils complètement différents. Donc, toi, tu as la chance de vivre près des montagnes Stan. Toi, Mao, tu es une pure parisienne. Donc, vous avez des façons de vous entraîner différentes. On peut comprendre la stratégie de Stan aussi, Johan, c'est-à-dire rester sur la route, faire du rythme. Mais qui lui servira d'un point de vue aérobie et cardiaque pour ce qu'il va mettre en place pour le trail, de toute façon.
Ouais, et puis c'est un coureur qui a déjà fait des très très longues distances avec des courses hyper longues dans le passé, avec des heures et des jours de course. Donc c'est quelqu'un qui... Et puis on est, tu l'as dit, à 17 semaines de mémoire de l'objectif. Donc effectivement, dans son cas, ça peut être bien d'aller justement sur du court et essayer de travailler un peu des allures un peu plus intenses, travailler des appuis un peu différents. Parce qu'il peut se le permettre, parce qu'il a un bagage, il a de l'endurance et qu'il lui reste un peu de temps. Donc c'est une stratégie intéressante. Ouais.
Ludo, est-ce qu'on se prépare à l'UTMB ? Comment tu gères ça, toi, qui as tant d'expérience, qui a un rôle particulier aussi, parce que c'est une semaine marathon, hein, l'UTMB c'est toute la semaine. Comment tu te prépares ? Est-ce que tu as toi aussi des étapes intermédiaires ? Comment tu gères tout ça avec l'expérience, Ludo ?
Ouais, en fait... J'essaye, et c'est ce que je conseille aussi aux trailers, c'est je prends un peu de repos avant l'événement et d'arriver avec vraiment essayer d'avoir de la fraîcheur mentale plus que physique pour pouvoir tenir toute la semaine. Mais après, moi, l'UTMB, je le travaille tous les jours en fait. Enfin, voilà, c'est au quotidien. C'est au quotidien que je révise les fiches, que je regarde ce que font les athlètes dans le monde entier. Il y a des courses tout le temps. Donc, et puis, j'anime tous les week-ends. Donc, du coup, ça me permet de me tenir au courant. Après, je suis le mauvais exemple, quoi. Je prêche la bonne parole. Mais physiquement, je ne me prépare pas assez pour l'événement, en tout cas. Ouais. Ça, c'est sûr.
Les rôles sont différents, mais c'est que ça engendre quand même de la fatigue. On racontera tout à l'heure ton histoire qui est folle, ton arrivée à Chamonix par amour, et puis ensuite, toi qui pratiquais plutôt la natation, tu encadrais l'équipe de natation, la découverte du trail, le marathon du Mont-Blanc, quand tu commences au niveau du rôle de speaker, et puis ensuite l'UTMB. Donc, ce sera intéressant de parler de tout ça avec toi. Mao et Stan, vous avez... face à vous un coach de très haut niveau, le meilleur de France, Johan Durand, qui est au départ plus axé route que trail. Mais est-ce que vous avez des questions à lui poser, des questions de préparation, Mao? Est-ce que tu veux demander des conseils à Johan sur des secteurs spécifiques?
Ouais, c'est peut-être sur le renfo. Est-ce que quelle fréquence est-ce qu'il faut faire des séances de renfo? Là, on est 4 mois avant l'événement, et est-ce que presque parfois il faut plus faire une séance de renfo qu'une vraie séance de running? Enfin, est-ce que ça doit prendre une place très importante dans notre prépa? Voilà ma question.
Ouais, si le renfo en trail et après sur la route ou même sur la piste, c'est la même chose pour tous les coureurs. C'est quand même la base pour 1) éviter de se blesser et 2) être capable de musculairement d'encaisser les charges qu'on va mettre à son corps. Donc effectivement, des fois, il faut peut-être faire, 10 km de moins dans la semaine, mais faire une séance de renfo en plus à un moment donné, ça peut être un pari gagnant sur le long terme, en termes de prévention des blessures et surtout en termes de force et de puissance musculaire. Donc pour moi, c'est la base. Et effectivement, je pense qu'en trail, il faut quand même en placer 2 par semaine. Alors après, ça dépend comment est orientée ta semaine. Tu vois, si tu as déjà des séances de côte, une séance de côte ou une séance d'escalier, c'est aussi une séance de renfo un peu caché. Donc, tu peux faire au minimum une fois en salle, plus une séance de côte, c'est vraiment le minimum.
Il faut préférer plutôt un peu tous les jours ou une ou deux grosses séances par semaine?
Ah non, ouais. Alors, par contre, pour tout ce qui est abdos, gainage, les choses comme ça, renforcement de la ceinture abdominale et compagnie, ça vaut mieux en faire tous les jours 10 minutes qu'en faire que 2 fois par semaine. Ouais. Ça vaut mieux avoir une routine quotidienne pour être solide là-dessus. Mais après, en termes de renforcement, de musculation, d'exercice sur les quadriceps, sur les ischios, sur les mollets et tout, ça, tu peux en faire 2 fois par semaine.
Ouais. C'est intéressant parce qu'en gros, le renfo ciblé, c'est seulement 1 ou 2 fois par semaine. En revanche, le renfo global...
Parce que tu charges fort quand même.
C'est ça. Le renfo global, c'est tout au long de la semaine. Quoi, si vous pouvez,
les abdos, à part quelques courbatures quand tu démarres, abdos, gainage...
et tous les exercices un peu comme ça, de proprioception et tout, ça te laisse pas de traces pour le lendemain. Alors qu'une vraie séance de muscu, si tu vas chercher du muscle, bah là, pour le coup, avec des poids, ou même des fois sans poids, ça va te laisser des traces pour tes, pendant quelques jours. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux plus les espaces et elles.
Comment tu fonctionnes avec tes séances de renfo, toi, Stan, parce que tu as commencé à nous en parler. Tu vas accentuer là-dessus à partir de la semaine prochaine. Est-ce que tu as un programme déjà établi? Est-ce que c'est du quotidien avec des séances plus poussées dans la semaine?
Pareil, moi je suis à la base assez nul sur tout ce champ-là. En fait, tout ce qui n'était pas course à pied pure sur route et entraînement, j'étais pas une culture très développée. Là, en fait, j'ai ma compagne Marine l'orphelin qui, elle, est en rémission d'essuie-glace plus tendinite à la hanche. Aïe. Et elle, sa vie, c'est du renfo, quoi. Ah, donc, oui. En gros, je me mets avec elle dans le salon et je fais pareil, quoi. Et je me dis que ça me fait pas de mal. Et donc, je fais pareil, renfo pour les essuie-glaces. Releveur avec des élastiques, effectivement gainage, abdos. Je fais ça 10 minutes, 10-15 minutes quasiment tous les jours. Ouais.
Mais pas de séance poussée spécifique avec du poids par exemple?
Non, j'ai des petits poids de 5 kilos à la maison, 2x5. Voilà, après, j'ai toujours entendu, mais à nouveau, je suis pas un expert, que sur les efforts longs, il fallait travailler l'endurance musculaire et le renforcement plus que. Le volume et donc de faire du soulevé de terre avec des barres à 200, quoi. Ça n'a aucun sens, oui. A priori. Donc, poids de corps ou petit poids en plus, quoi.
Ludo, toi, la chance que tu as, c'est que tu, sur ces week-ends du TMB, tu discutes autant avec les pros qu'avec les amateurs. Donc, ouais. Tu vois la souffrance des gens, notamment à l'arrivée, et les regrets qu'ils peuvent avoir sur leur course et sur leur préparation. Qu'est-ce qui revient régulièrement? Est-ce que ce sont tous les sujets qu'on aborde depuis le début de ce podcast, c'est-à-dire le kilométrage, le renfo musculaire? Qu'est-ce qu'ils te disent quand les gens passent la ligne d'arrivée? Déjà, ils sont soulagés, mais après, ouais, quand ils analysent leur course. Ouais.
Mais souvent, plus les anonymes, tu te rends compte que souvent, ils te disent « Ah, j'ai démarré ma prépa trop tard ». Et ils arrivent fatigués parce qu'ils ont voulu trop en faire dans les dernières semaines, parce qu'ils n'ont pas pris le temps assez tôt de préparer l'événement. Ils se disent « Ouais, j'ai de la marge ». Et puis souvent, tu bosses, tu as beaucoup de travail. Enfin voilà, tout le monde ne peut pas avoir beaucoup de temps aussi pour la prépa longue. Donc souvent, ils arrivent trop fatigués et du coup, ils subissent pendant toute la course. Et puis, Stan en a parlé tout à l'heure là, pour la diététie. Beaucoup, en fait, s'entraînent et suivent maintenant des programmes d'entraînement, mais ne préparent pas, ne testent pas la nourriture qu'ils vont prendre pendant tout l'événement. Et ça, c'est hyper important. Donc beaucoup subissent, beaucoup me disent « T'as, au bout de 100 bornes, j'arrivais plus à manger ». C'est l'enfer, je ne peux plus boire depuis là, plus de 6 heures. Ils arrivent explosés et puis parce qu'il n'y a plus que la tête qui fonctionne. Et donc, c'est ça, un des facteurs de réussite, c'est vraiment ce combo de renforcement musculaire, de savoir ce qu'on va manger. Aux entraînements, là, Mao a été faire un bloc. Et c'est important pendant ces 3 jours de tester les gels qu'elle va prendre, la nourriture, de voir comment elle l'assimile pendant l'effort. Enfin, voilà. Il y a plein de choses qui font que souvent les courses ne finissent pas à l'UTMB parce que tout ça n'a pas été pris en considération.
Mao, t'as testé du coup?
C'est exactement ça. C'est ce que j'allais dire. Le Weekend Shock, ça permet de tester tout ça. Moi, je teste des pastilles, je teste des marques de gel différentes, je teste une banane, des choses, et je vois ce qui marche, ce qui ne marche pas. Je vois en plus, moi, c'est un sujet important pour moi. Je suis assez sensible aussi à ça. Donc, je vois tout de suite ce qui me donne de l'énergie et ce qui me rend malade. Et je prends des notes en fait après chaque sortie. Je me note ce qui a bien marché. Et là, je vois déjà, par exemple, j'ai déjà mes petits produits qui me plaisent. Je sais que je vais manger cette compote, ce type de gel, etc. Et là,
t'arrives à prendre du salé?
Pour l'instant, j'ai pas énormément de salé, parce qu'en fait c'est vrai que le salé, c'est plutôt ce qu'on va avoir tendance à prendre sur le ravito, du coup quand on est en solo, on a c'est plutôt vrai. Des produits sucrés, mais en fait là, par exemple, sur des sorties de 40 bornes, je commence à avoir envie de saler à un moment.
Ah, déjà ouais.
Voilà. Donc, je sais que c'est sûr que, pour le coup, là, par exemple, sur le Snowdonia, qui est quand même un bloc d'entraînement, j'aurai des ravitaux et là, je vais intégrer le salé. Okay. Et ça sera aussi une manière d'évaluer comment passe le salé. On a envie de saler de manière vraiment instinctive au bout d'un moment.
Ouais. Stan, c'est...
Moi, j'ai une petite... Vas-y. Une petite question pour Johan. Question un peu qui a l'air un peu con, mais comment on sait qu'on progresse en trail? En fait, parce que tu vois, sur route... route, on voit hyper bien les allures versus rythme cardiaque. Ouais. Même la montre, quelle que soit la marque, donne des pourcentages de performance, fait même des projections des projections de nos résultats sur 5, 10, 15 semi-marathons et tout. Et on le suit super précisément. À la fin, je peux dire que c'était une bonne ou une mauvaise sortie. En trail, entre le terrain, le dénive, la tête du dénive, même la vitesse ascensionnelle, parfois ça veut rien dire parce que si c'est hyper raide, on va monter à 1500 mètres alors que finalement, on n'a peut-être pas beaucoup progressé. Enfin, c'est vachement dur en fait. Moi, j'ai du mal pendant toute cette période. Je fais du volume, ça me rassure, mais est-ce que je progresse vraiment en fait? Comment je peux le savoir avec les indicateurs de la montre par exemple?
Avec les indicateurs de la montre, pas forcément, parce que à part de faire les mêmes boucles et les mêmes chemins, c'est vrai que pour le coup, la route, c'est vrai que comme tu le dis, c'est hyper simple parce que tu as tes temps au 1000 mètres, tu as tes temps sur piste, tu as tes allures, tu as ta FC et tout ça. Après, en trail, tu peux te rassurer via des compétitions. Tu vois, t'as des sur des compètes, tu vois comment tu passes le dénivelé, comment tu passes les bosses, est-ce que tu es plus à l'aise dans les montées, dans les descentes, est-ce que tu as l'impression que ça commence à être pas mal sur ton niveau de forme. Et après, j'ai envie de dire, c'est le feeling, ouais, c'est vraiment les sensations de l'entraînement, mais si tu fais les choses bien, tu m'as dit, t'as quand même toujours un petit peu les allures, hein, malgré tout, tu vois, dès que tu retournes sur le plat, rien ne t'empêche de faire des séances au seuil, hein, tu sais, les séances ouais, classiques. Là, tu vas voir si tu as progressé sur les courses un petit peu plus plates. Mais après, ça doit être ton feeling, ton ressenti qui doivent te montrer un petit peu ton niveau de forme, je pense, si jamais tu n'as pas de compétition. Ouais.
Après, si je peux me permettre deux réflexions, est-ce que l'analyse du cardio peut être un bon indicateur pour Stan, quand même? Parce qu'au fur et à mesure qu'il va pratiquer son entraînement, est-ce qu'il va voir le cardio baisser comme un coureur sur route lorsqu'il fait de l'endurance fondamentale? Ouais. Ça peut arriver, Johan?
Oui.
Plus le cœur est bas, plus ça veut dire que tu es entraîné. Et autre chose, Stan, tu as la chance de vivre à Annecy. Est-ce que c'est pas possible pour toi d'aller reconnaître des portions de l'UTMB et te tester sur quelques portions, c'est-à-dire regarder combien de temps tu mets entre un point A et un point B et essayer de le faire plusieurs fois dans la prépa pour voir justement si tu as progressé? C'est peut-être une solution.
Ouais, carrément. Ouais, je pense qu'effectivement c'est à faire. Ok, non, merci.
En fait, parce que nous on a reçu pas mal de trailers dans ce podcast RMC Running, Johan notamment. Moi je pense à Annelise Rousset, je pense à des gens comme ça, et qui par exemple quand ils font des tentatives sur le GR20 ou des tracés très connus, ils se fixent, ils repèrent des points de passage, et c'est comme ça qu'ils fixent leur allure, ce qu'ils doivent mettre en place, etc. Et c'est un bon indicateur de ce point de vue là Johan.
Ouais, c'est ça, ouais. C'est, bah oui, parce que du coup, t'as des portions. Et puis, c'est surtout quelque part, d'un point de vue mental aussi, ça va te faire une projection sur ce que tu vas vivre. Tu connaîtras le parcours. C'est quand même un sérieux avantage de connaître le dénivelé et d'être déjà passé sur ces chemins-là. Donc, l'objectif, il peut être intéressant, ouais.
Alors, passons à la séance d'entraînement pure et dure, Johan, parce que tu vas nous apporter des conseils avec deux profils différents, une citadine et puis Stan qui vit au plus près des montagnes. Les séances de côte pure et dure pour les trailers, Johan, quels conseils peux-tu donner justement? Comment ça se travaille? Est-ce que tu as des types concrets de séances qui peuvent être mises en place? Est-ce que tu as bossé? Comment tu nous conseilles de s'envoyer comme ça des entraînements et de la spécificité trail sur un effort comme celui-là? Je rappelle juste, c'est 171 km, 10 000 de dénive qui attendent Mao et Stan le jour J.
Ouais, ça va piquer, ouais. c'est le point noir, c'est le point noir de la course. Hein. Non, mais c'est le dénivelé. Et pour bosser le dénivelé, il n'y a pas d'autre solution que de faire des séances de côte. Donc, effectivement, il faut progresser, il faut forcément progresser sur ce secteur-là. Et j'ai checké 3-4 séances un peu type pour les trailers que nous, on n'utilise pas forcément sur la route. Tu vois, la première, c'est le MioCross Max. Ça, c'est idéal pour progresser en trail parce que c'est une technique...
Mao est en train de noter.
Exactement.
Ouais, c'est vrai. C'est en fait, t'associes du renforcement musculaire pour charger un peu les muscles avant et après, tu fais la côte. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que tu te mets en position un peu en position chaise et tu vois, la position chaise contre un poteau ou un arbre pendant X secondes, tu vois, 30 à 45 secondes suivant la capacité de tes quadris à supporter l'effort. Et derrière, tu vas faire des côtes. Tu vas faire 45 secondes de côtes. Et donc, du coup, là, l'idée, c'est de gagner en puissance et en résistance musculaire. Pourquoi ? Parce que tu vas vraiment solliciter. Le but, tu vas travailler sur un muscle déjà fatigué par le fait de t'être mis en position chaise statique pendant 45 secondes. Ou là, tu vas voir, hein, 30 à 45 secondes, tu vois, ah oui. les cuisses, ça commence à vibrer, tu vois. Tu es mis en mode un peu vibreur. Hein, ça vibre un peu de partout. Et après, derrière, tu enchaînes avec des côtes. 45 secondes de côte et puis après tu redescends de façon classique, plutôt cool, et après tu re-enchaînes ça, et ça tu peux le faire presque quasiment une dizaine de fois, donc c'est déjà une bonne séance. Et là pour le coup, celle-là musculairement, elle va vraiment te faire du mal, tu vois. Elle va vraiment te charger musculairement.
Alors,
la position chaise, c'est pas simple.
Ouais. On est d'accord qu'après une séance comme celle-là, il faut un bon temps de récupération.
Exactement. Ouais,
parce que là, musculairement, tu charges beaucoup.
Ouais. Exactement, ouais. Celle-là, elle fait mal parce que voilà, tu vraiment l'idée, c'est que t'associes tu travailles sur un muscle vraiment fatigué. Et donc là, vraiment, tu vas vraiment solliciter toutes les fibres musculaires. Donc, tu vas prendre un peu en volume en plus.
Je précise que là, on travaille vraiment la côte, mais la montée, hein, l'ascension.
Oui,
on ne parle pas encore
de
descente.
Là. C'est-à-dire que là, on redescend vraiment,
voilà.
Cool.
On en parlera un peu plus tard, justement, du côté excentrique. C'est ça, travailler les excentriques, ouais. sur la descente sera l'objet d'un...
C'est la prochaine séance de côte là, que j'ai préparée.
Ah bah vas-y. Ouais, vas-y.
C'est ça. Pour le coup, c'est une séance de côte avec une récupération un petit peu progressive.
Ouais.
Donc là, on est sur une pente peut-être un petit peu plus douce. Tu vois, pour la myocross, on peut monter sur des vrais passages terrain un peu difficiles entre presque 10 et 20% de dénivelé. Là, pour le coup, sur la récupération progressive, vaut mieux aller sur une côte plutôt, pas faux plat, mais entre 5 et 10%. Tu vois, c'est une côte, mais pas un mur. Et donc là, l'idée, c'est de travailler fort dans la montée et de redescendre immédiatement, très vite dans la descente.
Ça, il adore. Ah, voilà. Même pour ceux qui font de la course à pied sur route, je le connais, celui-là, voilà. Il adore. Ouais.
C'est ça. Moi, c'est quelque chose qu'on doit travailler. La montée, mais également la descente. Et donc là, l'idée, c'est de descendre de plus en plus vite. Donc, par exemple, je sais pas, j'ai prévu 9 blocs de 40 secondes de montée. Et dans mes descentes, les 3 premiers blocs, je vais descendre en 1 minute 15, pardon. Les 3 blocs suivants, je vais descendre en 1 minute. Et les 3 blocs suivants, je vais descendre en 40 secondes. Donc, ça veut dire que voilà, les 3 premiers blocs, la descente, elle va se faire un peu tranquille. Les 3 suivants, la descente, elle va se faire à rythme très soutenu. Et les 3 suivants, la descente, elle va se faire à balle. Et donc...
C'est des bonnes séances, hein, des bonnes séances concrètes. Hein. Ouais,
ouais, et l'idée, c'est de... Tu travailles quand même à la sensation dans la montée, tu montes bien. Et derrière, par contre, il faut rester... L'idée, c'est de rester lucide dans la descente pour bien gérer les appuis, la technique... et puis la diminution du temps de repos, c'est-à-dire que les 3 premiers tu descends en 1 minute 15, les 3 suivants tu descends en 1 minute et les 3 derniers tu descends en 40 secondes. Donc les 3 derniers, enfin la récupération dégressive comme ça, ça pique sur la fin. Ouais.
Vas-y, Marouchon.
Ouais, c'est pas inintéressant parce qu'on dit souvent qu'on peut perdre une course quasiment sur les descentes si on va trop fort, justement parce qu'on se fait mal à ces muscles qu'on n'a pas l'habitude C'est ça.
Ah ouais, derrière, si t'es chargé musculairement, hein, c'est compliqué de pouvoir enchaîner avec une partie plate ou de nouveau un peu de dénivelé. Donc effectivement, les descentes sont très importantes et c'est surtout... autant en vélo, les descentes, tu peux presque
c'est
récupérer. Alors quand tu les vois descendre, tu te dis pas c'est un bonheur, mais effectivement, tu fais descendre un peu le cardio et il faut quand même rester lucide.
T'as plus à pédaler quand même.
Ouais, voilà. Mais en course à pied, la difficulté, c'est que c'est pire que la montée en fait, parce que tu te fracasses musculairement. Il faut être hyper vigilant, c'est dangereux. Donc c'est vraiment pas simple.
Ouais. Moi, c'est ce qui m'avait marqué le plus sur l'UTMB de l'année dernière, c'est que à partir de je dirais la foulie, donc aux alentours du 110e, si je dis pas de bêtises à peu près, en fait il y en avait mais plein qui étaient cramés en descente et qui marchaient en descente, qui arrivaient plus à prendre les racines, etc., et qui hurlaient, en gros qui râlaient et grognaient à chaque descente. En fait, ils étaient immobiles en descente. Il y en a même qui descendaient en arrière, tellement tellement ils n'arrivaient pas en plus à faire chauffer le quadri devant. C'était un truc de malade. Ouais, c'est ce qui m'a le plus... La montée, tout le monde est plus ou moins en marche rapide, quoi. Hein. Au bout d'un moment, on va pas se mentir, personne court vraiment. Par contre, en descente, il y a des différences de vitesse qui sont folles, quoi.
Et Ludo, est-ce que c'est le retour d'expérience que tu as aussi avec les athlètes amateurs, mais même pros, hein? Est-ce que les descentes font plus de dégâts que les montées finalement sur l'UTMB?
Bien sûr, parce qu'on ne parle, et là tu vois, là c'est l'entraînement, mais on parle beaucoup, beaucoup d'ascensionnel tout le temps. Et c'est vrai que moi, les personnes que j'ai entraînées, c'est souvent... On leur fait travailler du cassage de fibres en règle, hein, c'est-à-dire on les fait monter.
Il faut que ça pète.
Non, mais il faut que ça pète. Malheureusement, Mao, il faut que tu y passes. Il faut que tu passes à aller faire un 1005, un 2000 de dénivelé négatif, de descendre. Après, tu sais que tu as 3 semaines de récup parce que tu auras cassé des fibres. Mais c'est important d'habituer son organisme à descendre parce que, comme l'a dit Stan, il y a des différences, mais tellement fortes avec ceux qui ne travaillent jamais les descentes, mais tu leur mets des heures.
Casser les fibres en règle, c'est bien noté. Merci pour le conseil.
D'autant plus pour Mao qui vit en ville. Bon, elle a la chance de pouvoir faire de temps en temps des week-end shocks, mais c'est sûr que c'est un élément à prendre en compte. Juste, Johan, parce que je te connais depuis longtemps, il y a une séance que tu adores faire. Là, on parle de montée pure et dure. Toi, c'est de faire du fractionné en côte.
Ah oui.
Et de poursuivre la côte dans ta récup. C'est-à-dire, tu fais de l'intensité sur de la côte, tu prends une côte qui est assez longue de 3, 4, voire 5 km, et ta récup, tu continues de monter, mais à un rythme peu élevé. Est-ce que ça peut servir à un trailer?
Et ça peut, bien évidemment, que ça fonctionne pour un trailer, hein, parce que le fractionné en côte, en trail, c'est quelque chose qui est développé et qui se fait. Et justement, avec ce type de séance, donc pareil, tu travailles en côte sur une pente toujours à 10%, je dirais, et tu montes pendant, après ça dépend du fractionné, mais ça peut être des 2 minutes, 4 minutes, tu peux même monter jusqu'à 6 minutes, voire 8 minutes, et tu fais ta récup complète toujours en montant, mais en descendant au lieu de... Moi, je sais que les côtes, généralement, je les montre entre 15 et 16 à l'heure sur de la route, sur des pentes relativement
facile. Régulières. Cette cascade est réalisée par un professionnel. Hein.
Voilà. Non, mais c'est des pourcentages à 7-8, tu vois. Et derrière, par contre, je fais ma récupération à 11-12. Mais par contre, ça continue à monter. Donc, d'un point de vue musculaire, c'est intéressant aussi sur la phase de montée, sur la phase de poussée. Et donc, ça peut être intéressant de faire du fractionné en côte avec de la récup en côte. Ça, c'est vraiment un travail 100% spécifique côte. Et du coup, là, on est plus sur un travail d'endurance. Vu que là on ne va pas faire de descente, donc on va vraiment améliorer un peu son endurance, son seuil, ces choses comme ça, avec ce fractionné en 100% montée.
Et tu as été parfait sur cette séance d'entraîneur de trail, bravo.
Merci.
Notre ami Seb Cornette serait fier de toi parce que tu as donné tous les bons conseils. Est-ce que, avant de passer justement à l'histoire du dos, vous avez une autre question pour Johan, Mao et Stan? Est-ce que vous vouliez demander autre chose à Yodu? Pas forcément.
On en a déjà appris pas mal aujourd'hui. Déjà, si moi je me dis ma semaine, elle va être, chargée. C'est déjà faire au cross.
Et en plus, vous avez des séances concrètes que vous pouvez mettre en application. Parlons donc de Ludo Collet, la voix de l'UTMB. C'est un plaisir d'accueillir Ludo dans ce podcast RMC Running, parce que tous ceux qui ont vu des résumés de l'UTMB t'ont entendu soit au début de la vidéo, soit à la fin, soit au départ, soit à l'arrivée. Je le disais, ton histoire est particulière. Toi, t'es au départ un gars de région parisienne. Tu tombes amoureux d'une fille de Chamonix, donc tu vas t'installer là-bas au tout début des années 2000, je crois. Mais toi, le trail, c'est pas ton sport, c'est plutôt la natation au départ.
Ouais, tout à fait. Moi, quand j'arrive en 93 à Chamonix, je viens pour entraîner mes nageurs à la montagne et je dois rester une semaine. J'y suis resté 30 ans, quoi. La semaine a été très longue.
Ah oui, c'est vrai que c'est assez long comme semaine.
Ça a été une grosse semaine, mais ça a été le coup de foot pour la vallée, pour... un domaine que je connaissais pas, les montagnards. Et puis, petit à petit, forcément, je me suis intéressé à ces coureurs de cross. On n'appelait pas ça trail. Hein.
Eh oui, bien sûr.
Tu vois, il y avait déjà des courses de montagne. Et du coup, j'ai été un petit peu me tester. Et je n'ai pas compris tout de suite. Là, j'ai découvert des muscles dans mes jambes que je ne connaissais pas. C'était fou. Je me suis dit, mais comment ils font pour... J'arrivais pas à comprendre comment ils arrivaient à courir dans le dénivelé, quoi. Et du coup, ça m'a vachement intéressé.
Ce qui est génial avec toi, Ludo, c'est que tu as aussi connu toute l'expansion de l'UTMB, parce que c'était plutôt anonyme quand tu es arrivé. Enfin, anonyme, en tout cas, c'était vraiment considéré par une course magnifique par les vrais spécialistes. C'est devenu un vrai événement trail. C'est le plus grand de France, voire l'un des plus grands d'Europe. Donc toi, tu as vu tout ce développement de l'UTMB.
Ouais, tout à fait. Moi, quand j'ai commencé en 2006 sur l'UTMB, c'était 3 jours, quoi. On travaillait vendredi, samedi, dimanche.
Ouais, voilà.
Donc, en plus, j'avais la possibilité de faire jour et nuit. C'était moins gros, la musique était moins forte. Et du coup, je pouvais accueillir tout le monde et je pouvais tenir 3 jours sans dormir. Maintenant, c'est 7 jours et j'ai plus tout à fait. On me demande plus le même travail qu'à l'époque, quoi. Donc. Du coup, il faut se reposer aussi.
Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est une semaine, il y a différents formats de course, il faut tenir sur la longueur. En quelques mots, est-ce que tu peux nous raconter tes meilleurs souvenirs autour de l'UTMB ? Des courses, t'en as commenté 1000, hein, t'en as spiqué 1000. Je sais pas, ouais. Stan, ça sonne, peut-être. Je crois.
Ouais, peut-être plus, quoi.
Ah, c'est le livreur, Stan. C'est les poids pour les séances de renfort musculaire.
Des kettlebells en livreur.
T'es envoyé directement. Ouais, c'est ça.
Non, c'est le rib de Johan Durand pour la séance d'entraînement. Non mais ouais, Ludo, quels sont tes meilleurs souvenirs de course ? Parce que tu connais très bien les pros et les amateurs. Est-ce que tu as deux, trois souvenirs que tu peux ressortir comme ça ?
C'est dur. Il y a tellement de souvenirs. C'est dur parce que tu te rends compte, j'ai fait depuis 2006.
Bah oui, bien sûr.
J'en suis à 1500 courses commentées, peut-être à peu près. Enfin, genre 2500 départs. Mais forcément, j'ai vu l'avènement de Kylian Jornet et de Xavier Thévenin. Ouais. J'ai, moi, dans mon cœur, évidemment, Sébastien Chéniaud, qui m'a tellement apporté, tellement appris, le voir comme ça combattre les Espagnols pour être le petit coq français rester sur les podiums, c'est voilà l'arrivée de Virginie Govignon que certainement les gens maintenant ont oublié, mais sur la CCC il y a des moments très très forts, j'en ai tellement, et puis d'anonymes, de gens qui me disent on était derrière les barrières, on vous a écouté et vous nous avez donné envie de faire la course. Et merci à vous, on l'a fait.
Tu démarres en 2006, est-ce que l'émotion est toujours la même au moment quand l'événement arrive ? Est-ce que tu as une excitation particulière ? Est-ce que ça reste le rendez-vous de ton année ?
Ah, évidemment. Évidemment, c'est ma plus grosse semaine. C'est là où j'ai le plus de pression parce que quand j'ai commencé, j'avais 2 journalistes et 3 photographes derrière moi. Maintenant, j'ai 200 accréditations. J'ai une caméra au-dessus de ma tête qui est un mouchard H24. Donc, tout est étudié, tout ce que je peux dire, les erreurs que je peux faire. Parce qu'évidemment, j'en fais aussi sur la longueur. Des fois, je me trompe un petit peu sur des palmarès, sur des places, des choses. Forcément, mais ça fait partie du live. Et bon, pour moi, c'est pas un souci parce que je suis dans l'excitation. Ça, mais ouais, c'est l'événement que j'attends d'une année sur l'autre. Je me prépare pour ça parce que j'ai toujours autant de plaisir à le commenter, à l'animer et à donner aux autres, quoi.
Dis-moi, Ludo, en termes de... Le travail pur et dur de speaker, quel est le pourcentage de travail préparatoire et d'improvisation ? Est-ce que tu sais sur quoi tu pars ou est-ce que tu te laisses porter par le feeling du moment ?
Ouais, je suis comme je l'ai dit tout à l'heure en début, je travaille tous les jours. Tous les jours, je travaille pour l'UTMB pour essayer d'être au courant de tout parce que, encore une fois, en 2006, j'avais 30 coureurs à connaître, à tout casser.
Ouais.
Maintenant, j'en ai 5000 ou 6000.
Ouais. Tu connais Mao désormais. Stan, tu le connaissais déjà.
Ouais, Stan, j'ai pas eu la chance de l'accueillir. Je pouvais pas rester. Faut qu'il progresse encore. Tu vois.
C'est d'ailleurs la question que j'allais te poser, Ludo. Si on arrive à 5-6 heures du matin dans la nuit de samedi à dimanche, tu seras pas là en fait pour nous accueillir.
Ah bah non. Je peux te dire, c'est mort. Il était pas là.
Non, c'est mort. Bien sûr. Je peux pas. Déjà, depuis mon problème cardiaque sur la ligne en 2017, l'organisation m'interdit. J'ai des heures à être là. Et après, j'ai un tuteur qui vient me chercher et qui me fait sortir de la ligne. Parce que moi, quand sur Live Trail, j'ai toujours quelqu'un que je connais qui arrive. Que ça soit un anonyme,
bien sûr.
Un pote. Et du coup, je reste et j'ai plus le droit.
Oui, parce que ça fait partie de ton histoire, mais il y a eu ce moment difficile en 2017, c'est ça ? Avec ce problème cardiaque sur le week-end de l'événement, sur la ligne.
Après 7 jours. C'était la course de Titan, le combat des chefs. Entre François Denne et Kylian Jornet.
Trop d'excitation.
Ça crée des émotions.
Ah ouais, là.
Ouais, et j'étais très, très fatigué parce que c'était une année où j'ai énormément travaillé sur le terrain, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis arrivé sur l'événement fatigué. Ouais. Et puis, le samedi soir, quand mes deux potes sont arrivés, j'ai ouvert un petit peu trop les vannes. Et là, c'est là où il y a la part d'inspi. Après, là, j'ai rien de préparé. Même si je les connais par cœur, je connais l'histoire du parcours, ce qu'ils sont en train de faire. Ouais. Mais après, je me laisse porter par mes émotions. Et je crois que c'est ce qui touche les gens. C'est qu'il y a un moment, je ne touche plus les pieds par terre et je me laisse vivre. Et en plus, j'ai aucune censure. J'ai le droit de dire ce que je veux. Donc, du coup, je suis à l'inspi total. Mais sauf que là, j'ai été un peu trop fort.
Stan, toi, tu es un grand témoin. Le départ de l'UTMB, c'est un moment mémorable ?
C'est un moment qui m'a transi, en fait. J'avais l'impression d'être en dehors de mon corps. Je ne vais pas paraître trop perché, mais en fait, c'est un moment qu'on a tellement vu. Sur les réseaux sociaux, en vidéo, on a tellement entendu cette musique que quand on le vit, on se demande si c'est réel ou pas. Et c'est un moment qu'on a tellement attendu pendant un an, parfois des années, c'est la course d'une vie pour certains. Donc ce moment-là, quand on est en train de le vivre, on se demande s'il est réel. Et moi, j'ai des flashs, j'étais littéralement submergé, même pas d'émotions, des visages croisés, des yeux émus, évidemment, de ses proches, etc. Mais au-delà de ça, on sent qu'on vit un moment d'exception. J'ai atterri au bout de 2 heures, quoi, de ce départ.
Ah, c'est ça.
J'étais complètement perché, en fait. Je regardais les gens comme un mec sous LSD, quoi. J'étais complètement à l'ouest.
Ce qui peut être intéressant à analyser, d'ailleurs, c'est à partir du moment où la musique démarre et où Ludo démarre, comment le cardio des gens monte sur les montres. Ouais. Ça doit être sympa.
Ah, le niveau de stress, là, il est...
Tu dois prendre 15 ou 20 pulses d'un coup alors que t'as pas bougé. Bah ouais, mais ça y est, ça monte. Forcément, c'est un moment particulier. Ludo, tu vas pas t'échapper comme ça. Est-ce que tu peux nous faire un petit kiff, une mise en situation? On va te balancer la musique. Mao et Stan sont sur.
On est en short.
Sont dans le sac de départ. Et voilà, est-ce que tu peux nous faire une simulation de départ du TMB? Ça te va? Tu joues le jeu?
Vas-y, fais péter.
Allez, c'est parti.
Mao, Stan, Yo, Benoît, vous avez travaillé longtemps pour arriver là aujourd'hui. Je sais qu'à l'intérieur de votre corps, votre cœur bat très très fort. N'oubliez pas les sacrifices. N'oubliez pas ce que vous avez fait endurer à votre famille pour pouvoir être là aujourd'hui. Alors il est hors de question que vous abandonniez à Saint-Gervais. Tout ça, pour ça, il en est hors de question. Pensez à ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir prendre le départ. Tous les déçus du tirage au sort. Galvanisez-vous. Prenez de la force. Et surtout, soyez vivants!
Génial!
Ah, vous avez les frissons! Ouais. Hein. Même Johan était prêt à partir!
Ça y est, j'ai lassé les traboucos là!
Ah, bah, merci Ludo, merci pour ce moment! C'était super! Ludo Collet, la voix du trail en France, là on y était tous, tu nous as transportés et on a hâte de te retrouver sur cette semaine de fin du mois d'août. Ludo, en deux mots, ton actu, parce qu'il y a deux actus différentes, il y a ton podcast d'ailleurs, Potin de Trail, qui continue avec des épisodes qui sortent, hein, Ludo?
Ouais, c'est ça, le premier sorti à un mois, format très très court. Je suis très très heureux de l'accueil de la communauté des trailers. Le prochain sort dans quelques jours. Et puis, 20 ans d'expertise sur les départs. Je viens d'écrire en une coécriture avec mon ami Sully Céphile d'un morceau qui s'appelle La Bigola, qui sera certainement au départ un petit peu avant à l'UTMB, mais sur plein de courses. Donc j'espère que la communauté va me soutenir pour que ça devienne un hymne, et je compte sur vous. Écoute, ça sort dans quelques jours.
Ça sera le cas. Je précise que tu seras engagé aussi auprès des Jeux Olympiques, donc on pourra t'entendre sur l'événement des Jeux Olympiques, ça aussi on en parlera. J'ai écouté le single, allez-y, parce que c'est vraiment la signature de Ludo Collet, c'est Ludo comme vous l'aimez, donc allez écouter ce morceau qui est super sympa. Et petite indiscrétion, sachez, amis d'RMC Running, que je fais tout pour que Ludo soit avec nous pour le record du monde RMC. Hein, voilà, je me bats avec lui, voilà, on est en négociation poussée. J'espère que ça pourra aboutir. Ludo Collet, pourquoi pas au micro de notre record du monde RMC. Ça serait pour nous magnifique. Il dit rien, mais il acquiesce. On le voit.
Il acquiesce. Non, mais bien sûr que je suis en train de faire le maximum pour venir vous rejoindre. C'est juste, je suis en train de me mettre à dos ma compagne.
Ça, c'est le problème. Mais bon, on va essayer.
C'est le problème pour tout le monde.
J'étais pris sur un triathlon.
Exactement.
Ma compagne organise. Elle tient un institut d'enfants qui sont atteints de mucoviscidose, d'asthme sévère ou d'obésité. Et du coup, il y a, ça s'appelle Respirer sans y penser. Et du coup, voilà, ils organisent un triathlon où ils espéraient entendre ma voix. Quoi.
Mais on essaiera de faire en sorte que tout soit possible. Ludo, à la fois à Briançon et à Paris au Stade Charletti le week-end du 8-9 juin. Donc on va tout faire pour trouver une solution. Je vous remercie tous d'avoir été là. On a passé un super moment. Merci Mao, en tout cas, d'avoir été là. Merci à Stan aussi. Bonne suite de préparation à vous. Merci au maître Yodu qui a été excellent dans ce rôle d'entraîneur de trail. Merci à Ludo Collet. Tu reviens quand tu veux, Ludo, dans RMC Running. Et la tradition de la musique pour terminer, c'est Mao qui s'y est collé. Eh oui, c'est Mao qui a fait le choix musical que je vais retrouver immédiatement. Tu nous as choisi Run Boy Run, Run de Woodkid. Ça donne ça. Ça aussi, ça donne la pêche.
Voilà, c'est ça, c'est motivant. C'est
et bah, parfait. Autre proposition de Mao, si vous voulez notre cam. C'est Miley Cyrus, Flowers, ça c'est connu. Évidemment. Ah, là on est bien aussi. Là on est après la séance de côte, hein, quand les cuisses sont gorgées de lactique.
Voilà, ça c'est la musique pour dire qu'on est capable de tout.
Exactement, on a bien vu Mao. Merci à tous d'avoir été là, merci coach Yodu. Et toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.